Nous sommes mardi matin sur Allegre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Bonjour à tous. Et ce matin, je suis avec Philippe Gourdin, qui a publié un livre qui s'appelle « Je suis né trois fois », avec une introduction de l'actuelle ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Et ce livre a été publié chez Fauf Éditions. Il date de cette année. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et donc, que veut dire, enfin, que tu es né trois fois?
Alors, je suis né trois fois. Pourquoi? Parce que mon livre, c'est un livre témoignage qui raconte ma deuxième leucémie. Et lorsqu'on a une leucémie, dans la plupart des cas, il est préconisé de faire une greffe de moelle osseuse. Et finalement, on a le sentiment d'être... Ça nous change notre sang quand même. Moi, j'en suis à mon troisième groupe sanguin, ce qui est quand même une histoire assez incroyable. Ça nous change notre sang, ça change beaucoup de choses. Une greffe, c'est un peu comme un nouveau départ dans la vie. Et donc, j'ai ma date de naissance, qui est ma première naissance, et mes deux greffes de moelle osseuse, qui sont les deux autres naissances. D'où le titre, je suis né trois fois.
Et donc, la première leucémie, tu l'as à 35 ans.
Ouais.
Et ta fille te dit, tu devrais écrire, tu fais un blog. Il y a beaucoup de réactions, c'est ça
là. C'est ça. C'est-à-dire que... À l'issue de ma première leucémie, donc j'avais 35 ans, j'ai eu une période de convalescence et j'avais une vieille passion que j'avais laissée un petit peu de côté, c'était l'écriture. Et pendant ma convalescence, vu que je ne pouvais pas faire grand-chose, mis à part les allers-retours à l'hôpital, et puis bon, j'étais quand même très affaibli, il fallait du temps pour que je remette de grosses doses de chimiothérapie et de radiothérapie. Du coup, je me suis mis à l'écriture. Et il se trouve que pendant les phases d'hospitalisation, j'avais des enfants qui étaient très jeunes, 5 et 8 ans, et je me suis dit que peut-être il fallait que je leur écrive quelque chose et que je leur laisse quelque chose si jamais ça se terminait mal. Et du coup, pendant ma convalescence, j'ai repris ces textes que j'avais initiés mais qui n'étaient pas satisfaisants, et j'en ai fait un roman qui s'appelle « Les 11 lettres de mon père ». C'est l'histoire d'un enfant qui grandit sans son père, mais son père, avant de disparaître, lui a laissé 11 lettres pour chacun de ses anniversaires de 10 à 20 ans. Et ce premier roman a eu son petit succès, hein, et du coup j'ai continué à écrire, et ça, c'était en 2002. Et depuis, je n'ai pas cessé d'écrire. J'ai écrit une vingtaine de livres, en fait. Soit des romans pour la jeunesse, soit des romans pour les plus grands, on va dire.
Et donc, ton blog a eu 70 000 visiteurs.
Ouais, c'est extraordinaire.
Plus de 2000 commentaires.
Alors, ce blog, je l'ai initié à l'occasion de ma deuxième leucémie. C'est ma fille qui m'a conseillé. Elle m'a dit, puisque tu es passionné par l'écriture et que tu vas passer des longs mois dans une chambre d'hôpital, occupe-toi. Et du coup, j'ai créé un blog. Au début, c'était des petits textes un peu légers. Je ne savais pas trop quoi dire. Et puis finalement, après, il y a eu un essor incroyable. Il y a eu un nombre de followers absolument fabuleux. Et donc, 70 000 visites venues de 54 pays en plus. Bon, j'ai bénéficié des périodes de vacances des autres, mais bon, ceux qui n'étaient pas enfermés à l'hôpital.
Et un des traits importants de ton livre, c'est que c'est un livre qui fait preuve d'humour, enfin de ton blog. Donc.
C'est ce qui surprend tout le monde, parce que ouais. Tel que je voulais raconter, c'est quand même une histoire assez sombre. Hein. Deuxième leucémie... je suis un cas que les médecins n'ont jamais vu, puisqu'au bout de 5 ans, j'étais en rémission, au bout de 10 ans, en guérison, et au bout de 13 ans, en rechute. Donc ça, c'est du jamais vu. Oui, j'ai réussi à trouver de l'humour. Parce qu'en fait, quand on observe un petit peu le monde de l'hôpital, des fois, il y a quand même des situations assez cocasses, assez invraisemblables. On n'est pas là pour rire, mais voilà, je voulais que ce blog ne soit pas un truc où on se morfond, quoi. Je voulais que ce soit justement un élan vers les autres, mais un élan qui soit positif. Et ça m'aidait à être moi-même positif.
Et ce que tu dis, c'est que tu fais une métaphore sur le vertical et l'horizontal. C'est ce que tu dis, c'est qu'il faut ne pas le vivre comme une malédiction.
C'est exactement.
Mais plutôt comme une épreuve.
Je pense que lorsqu'on est confronté au cancer, il y a une part de la lutte qui nous appartient, de la lutte contre la maladie. Ce que je pense, c'est qu'il doit y avoir quelque chose comme 70% qui sont les médicaments, les traitements, et merci la médecine d'avoir autant de solutions. Après, il y a 10%, c'est l'entourage, ça c'est extrêmement fort. Il y a 10% qui est une part de destin, et les 10% qui restent, alors ces chiffres sont un peu... les 10% qui restent, c'est la capacité du patient à combattre la maladie. Et un des objectifs de ce livre, maintenant que ce n'est plus un blog, mais vraiment un ouvrage, auquel j'ai rajouté du texte, c'est que je donne des clés pour lutter contre la maladie et être dans ces 10% qui vont peut-être faire la différence. Voilà. Et donc, parmi ça, j'ai une vision du cancer et je dis, il faut pas voir le cancer de manière verticale, mais horizontale. Donc, je m'explique. Quand c'est quand on vous annonce un cancer, c'est une malédiction qui vous tombe dessus. C'est quelque chose c'est votre vie qui s'arrête. C'est d'un seul coup, du jour au lendemain, tout va tourner autour de cette malédiction. Mais c'est une vision très, très, très statique. C'est-à-dire qu'on a l'impression, ça vient du ciel, on peut rien en faire et nous on est en dessous et on bouge pas. Si on visualise le cancer de manière horizontale, c'est-à-dire c'est un obstacle sur votre chemin de vie, tout de suite, on est encore dans le mouvement, on est encore dans la vie et on sait que derrière l'obstacle, il peut y avoir quelque chose. Donc c'est une vision psychologique de la maladie qui est très différente. Et je pense que quand on positive, malgré l'enfer qu'est le cancer, quand on arrive à positiver, on augmente ses chances de survie, tout simplement.
Mais ce que tu dis, c'est acceptation, résilience, gratitude. Ah. C'est un chemin en trois points.
Oui, c'est une bonne façon de le résumer. Oui.
Donc il faut accepter ce qui nous arrive.
Accepter l'inacceptable.
Ouais. Et comment tu définis la résilience alors ?
La résilience, ce serait pour moi la capacité à affronter un accident de la vie et quelque part en faire quelque chose de positif. Même si c'est quand même difficile de trouver le positif dans le cancer, mais finalement, en lisant mon livre, on se rend compte qu'il y a plein de choses positives. Moi, j'ai fait des rencontres exceptionnelles de médecins qui... Enfin, je veux absolument garder la relation. Avec les infirmières, on tisse aussi des relations de proximité, d'amitié. Et puis surtout, ce qui a été le plus fort, c'est l'ensemble des soutiens que j'ai eus grâce à ce blog. Parce que soutenir quelqu'un qui est atteint d'un cancer, c'est pas simple. Hein. C'est difficile de trouver les mots. Comment ça va ? Ça peut pas aller bien. Hein. Donc, dans un blog, il y a quelque chose d'anonyme. Et finalement, ceux qui ont suivi mon blog ont commencé à écrire des choses très touchantes, très jolies. Et d'ailleurs, dans le format de « Je suis né trois fois », on a publié une cinquantaine d'articles avec des gens qui ont pris le temps de d'écrire des choses très, très touchantes. Quoi. Et ça aussi, c'est un des atouts du livre.
Et donc, oui, c'est une question répondante pour moi, mais je pense qu'elle est... elle a une dimension pratique. Il y a la peur qui arrive.
Fatalement.
Et qu'est-ce que tu fais ?
Qu'est-ce que je fais ?
Ouais, qu'est-ce que tu fais face à la peur ? Qu'est-ce que tu fais ?
Difficile, hein. Alors, j'ai eu la chance d'être accompagné par une psy exceptionnelle, qui d'ailleurs a fait l'introduction, qui s'appelle Soraya Melter, qui est une psychologue clinicienne. Elle m'a appris à gérer la peur de mourir. Elle m'a donné quelques éléments et elle m'a autorisé à les retranscrire dans ce livre « Je suis né trois fois ». Et du coup, je pense que c'est quand même un livre qu'il faut offrir à ceux qui sont malheureusement confrontés à la maladie, parce qu'il y a des vraies clés. La plupart viennent de cette psychologue clinicienne, d'autres viennent de moi, mais il y a des vraies clés et il faut le faire savoir, quoi.
Et il y a longtemps, j'étais journaliste dans un journal qui s'appelait Enfants d'abord, et j'avais fait un article sur un certain nombre de gourous, et je m'étais penché sur la sophrologie, mais ça restait très abstrait comme rapport, et donc je me souviens que c'était un mélange de d'hypnose et de yoga, de technique de yoga au début, tu vois, avec du magnétisme, du training autogène. Le but, c'était l'accouchement sans douleur, enfin, puisque le journal s'appelait Enfant d'abord, donc il y avait toute une problématique là-dessus. Et c'est une pratique de déconnexion, d'auto-hypnose. Qui est très utilisé par les stomatologues, dentistes, une technique respiratoire, mais j'ai aucune expérience de la sophrologie. Tu as une expérience, tu sais.
J'ai découvert ça pendant mon hospitalisation. En fait, pendant toutes les phases, je suis resté 6 mois à l'hôpital, c'est long. Pendant toutes ces phases, j'étais en chimiothérapie.
Et lucide,
oui. Sauf un moment en réanimation. Il y a eu un mauvais passage, un passage compliqué.
C'est là que j'ai découvert. Ça fait des longues journées, quoi.
Oui.
Et de la bouffe, la bouffe dégueulasse. Et des
mais enfin, bon, avec les chimios, de toute façon, toute la bouffe est dégueulasse. Oui, ouais. Voilà. Non, et donc la sophrologie a été une aide précieuse. D'abord,
c'est ça.
La sophrologie, c'est se centrer sur sa respiration, sur son corps, et essayer de se détacher un petit peu de la réalité pour se centrer sur soi-même, sur sa... Je pense qu'un vrai sophrologue en parlerait beaucoup mieux que moi, mais j'ai eu malheureusement un passage en réanimation où j'étais au bout de ce que je pouvais endurer, et cette psychologue a été aussi, qui est aussi sa sophrologue, m'a fait me recentrer sur mon corps et me recentrer sur moi, et elle laissait finalement toute la souffrance qu'endurait mon corps au médecin, pour que moi je me ressente sur moi-même. Donc ça sera un petit peu long à expliquer et à comprendre, ça s'appelle un détachement de conscience. Et elle a vu tous les capteurs de réanimation qui tout à coup se sont apaisés. C'est-à-dire que les pulsations cardiaques, enfin, vous savez, on a plein de branchements et tous les compteurs se sont calmés. Et du coup, pendant toute la suite de l'hospitalisation, parce que ça c'était au début, j'ai fait de la sophrologie avec elle. Et en fait, j'ai constaté qu'en un quart d'heure d'apaisement, alors j'ai un petit peu de mal, hein, je suis pas un professeur de sophro, mais en un quart d'heure, c'était le bénéfice d'une sieste d'une heure, une heure et demie. Et ça, c'était formidable parce que je devais quand même subir des traitements qui sont particulièrement fatigants. Et donc, ça m'a fait énormément de bien. Et aujourd'hui, je continue parce que même pendant ma convalescence, j'avais une grosse fatigue. Et je m'allonge un quart d'heure, je me concentre sur ma respiration, sur les différents membres. Et je pense à des choses plutôt positives. Et c'est vrai qu'en un quart d'heure, on a un bénéfice... particulièrement intéressant.
C'est bien. Donc tu dis qu'il faut vivre plutôt en tant que personne qu'en tant que malade quand on affronte une épreuve de ce genre.
En fait, ce que je déconseille à ceux qui sont confrontés à la maladie, c'est de se morfondre et faut essayer de se raccrocher à la vraie vie, c'est-à-dire la vie qui est derrière ces chambres d'hôpital. Et moi, je l'ai fait avec le blog. Je pense qu'on peut le faire avec un dessin, avec des dessins. Pour ceux qui savent dessiner, avec n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est rester accroché à la vie. Par exemple, un des exemples que je donne, je dis qu'il ne faut surtout pas se mettre en pyjama. Parce que c'est une sorte de complaisance avec la maladie, d'acceptation de ça. Y a des patients qui ont même plus envie de se laver ou de se raser le matin. Je dis, non, il faut rester quelque part dans la vie. Essayer de trouver des petites choses comme ça qui font qu'on n'est pas juste un corps allongé à se morfondre dans un lit d'hôpital, quoi.
Oui, c'est un moment, quoi. C'est pas une finalité.
Voilà, c'est un obstacle à passer. On revient toujours sur cette.
C'est un obstacle.
Ouais, c'est un obstacle à passer. Après, il y aura du meilleur. Maintenant, il faut se taper cet obstacle, cette épreuve de la vie, quoi. C'est clair. Hein.
Bon, et quoi d'autre? Pour moi, j'ai fait un petit peu le tour de mon rapport à cette chose.
Moi, je pense qu'il faut. Un des messages que je voudrais faire passer, c'est que voilà, mon livre Je suis né trois fois peut être une aide précieuse pour ceux. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ça peut être une aide précieuse pour ceux qui sont confrontés à la maladie. Après, ça peut être aussi une lecture pour ceux qui ont tendance à se plaindre pour des choses qui n'en valent pas la peine. Quand vous aurez lu tout ce qui est écrit, tout ce que j'ai enduré, ça va peut-être vous aider à relativiser sur vos petits soucis qui finalement ne sont que des petits soucis. Voilà, et c'est un livre qui fait du bien, contrairement... Quand on vous dit « ce livre est un livre témoignage sur ma deuxième leucémie », vous vous attendez à quelque chose de lourd. Et en fait, c'est un livre qui fait du bien. Il y a beaucoup de lecteurs qui me l'ont retranscrit comme ça, et moi, ça me fait du bien aussi d'entendre ça.
Ouais, absolument, voilà. C'est un message d'espoir, ouais, évidemment. Ouais, c'est...
Après, si vous observez un peu le monde médical, il y a plein de choses amusantes, cocasses. Il y a toujours la célèbre tenue là, avant d'aller au bloc où vous êtes ouvert complètement derrière. Vous voyez la raie des fesses qui passe dans un couloir. Ça n'a absolument rien d'érotique, mais c'est quand même assez rigolo. Et on se demande pourquoi, au bout de tant d'années, on n'a jamais trouvé de solution pour ça. Après, j'ai bénéficié aussi du hasard. Parce qu'à un moment, avant la greffe, c'est un peu compliqué, mais on m'a injecté des cellules de lapin. Parce que ces cellules de lapin sont particulièrement tueuses des lymphocytes T, et les lymphocytes T sont ceux qui provoquent des rejets. Donc c'était bien de les désinguer un petit peu avant la greffe. Et donc j'ai eu des cellules de lapin, je vous dis, bien sûr, j'étais très surpris de ce genre de traitement. Et le soir même, ils m'ont donné à manger des carottes. C'était quand même assez extraordinaire. Ben voilà, donc déjà l'avoir vu, c'est que j'ai gardé, même la veille de la greffe, j'avais encore un petit esprit à la recherche de ce qui peut être rigolo. Pourtant, je peux vous dire que c'était pas rigolo, quoi.
Et avant de venir, on était au bistrot avec d'autres gens et on discutait des types de médecins plus ou moins empathiques. On pourrait dire aussi que leur situation, eux, n'est pas facile et que moi qui suis vieux, par exemple, j'ai vu la perte de l'aspect sacral, l'aspect sorcier du généraliste, par exemple, qui était encore quelqu'un, quand j'étais à la fin de mon adolescence, à qui on posait des questions existentielles sur la vie et la mort, qui prenait un peu la place du curé, qui petit à petit est devenu un mécanicien, qui avec son appuyé sur son vidal et qui donne des médicaments, et qui a été complètement instrumentalisé. Et quand même, les conditions de travail à l'hôpital se dégradent, tout ça, donc on a... Cette productivité, cette industrialisation touche tous les domaines de la vie.
Mais je crois que c'est un constat, malheureusement. Les médecins généralistes ont un nombre de consultations à faire, parce que sinon, malheureusement, leur métier est moins rentable, entre guillemets.
Mais même à l'hôpital, les conditions sont assez dures, quand même. C'est pas si facile de prendre le temps d'être empathique, d'être à l'écoute.
Pour moi, il y a C'est un peu drastique hein, comme vision, mais il y a quand même deux grandes catégories de médecins. Il y a ceux qui prennent le patient dans sa globalité, avec son niveau de psychologie, avec sa capacité à apprendre les mauvaises nouvelles, avec sa vie de famille, son contexte. Et le médecin qui prend le temps de prendre tout ça et de vous écouter. Et j'ai eu la chance, dans ce parcours-là et dans ma première leucémie aussi, d'avoir quelqu'un d'être suivi par des médecins qui avaient une véritable empathie. C'est-à-dire qu'elles ont pris le temps de me connaître, de voir tout ce que je pouvais accepter psychologiquement. Et puis, quelque part, j'avais l'impression qu'elles prenaient une partie de mon malheur. Et ça me faisait du bien. Parce que c'était des professionnels qui le faisaient. À l'inverse, j'ai aussi, malheureusement, côtoyé, mais beaucoup moins, des médecins où vous avez l'impression d'être un tas de cellules, quoi. Voilà, un tas de cellules, et on vous met une petite dose de ci, une petite dose de ça. Voilà. Et ça, c'est beaucoup moins bien. après, chacun a sa personnalité. Il y a des médecins qui n'ont pas forcément naturellement de l'empathie. Ce serait difficile pour eux. Mais néanmoins, je pense que ce serait une bonne idée de les accompagner un peu psychologiquement pour qu'ils apprennent à dire les choses, pour qu'ils apprennent à prendre le patient dans sa globalité. Et puis surtout pour qu'il y ait un petit accompagnement psychologique aussi pour eux, parce qu'il faut se dire que ça ne doit pas... Ceux qui sont en cancérologie ou en hématologie, comme j'étais, bah ils doivent malheureusement voir des patients partir les pieds devant. Et pour eux, ça ne doit pas être simple non plus. C'est peut-être une façon de se protéger, d'être un peu plus froid. Je ne sais pas. Mais pour moi, il y a vraiment deux catégories. Et les médecins qui ont vraiment de l'empathie, c'est une aide formidable pour le patient.
Il y a un médecin généraliste qui a été nommé meilleur généraliste de France, je ne sais pas en quelle année, qui m'a dit qu'il y avait eu un sondage et on demandait une des questions qu'on posait à destination des médecins généralistes et on leur demandait s'ils croyaient ou pas aux maladies psychosomatiques. Et il y a 80% des généralistes qui ont répondu que les maladies psychosomatiques n'existaient pas. c'est assez étonnant.
Il y a une expérience qui vient d'être faite, dont on parle un petit peu à la télé, par exemple. On prend une volontaire et on lui dit sur la main droite, sur le bras droit, je vous mets une pommade. Je vous apporte un appareil qui va vous brûler et vous me dites quand il faut arrêter. On va monter progressivement la température. Donc l'appareil est mis sur chacun des deux bras, gauche et droit. Et la température monte, et à un moment, elle dit 45 degrés. Enfin, c'est 45 degrés. Elle dit là, c'est plus possible. Arrêtez. Et après, on lui dit on vous met une pommade qui va vous protéger, vous préserver un peu de la chaleur. Et vous devriez aller un petit peu plus haut. Et en fait, on met un placebo sur le bras gauche et une vraie pommade qui protège sur le bras droit. Et elle va jusqu'à 50 degrés. Mais. Et elle estime que sur les deux bras, c'est exactement pareil. Donc il y a une partie psychologique qui a dit « je me sens protégé, donc je peux accepter plus de souffrance ». Alors qu'en fait, c'était un placebo.
Moi, je pense que toutes les maladies sont psychosomatiques.
Toutes, je ne sais pas, mais...
Je pense que c'est une erreur, mais c'est une question d'avoir un point de vue fort et de partir sur l'idée que l'inconscient existe, qu'on ait une subjectivité.
Exactement.
Mais bien sûr qu'il peut... Si une épidémie de quelque chose, évidemment, ce n'est pas psychosomatique.
Oui.
S'il y a 2000 morts de la grippe cet hiver à Paris, par exemple, ça ne sera pas... Encore ça peut se discuter quand même. Ça,
oui,
c'est la question ouverte qui meurt et
on revient au...
à la canicule, c'était quand même un certain nombre de gens qu'on a, et pas mal de gens seuls qui étaient dans des conditions sanitaires pas terribles et tout ça qui sont morts, dont on a découvert les cadavres pas tout de suite, etc. Donc ça compte quand même.
Oui, je pense que, mais on le sait, hein, par exemple, les gens qui sont soumis à un grand stress déclenchent parfois des lumbagos. Moi, personnellement, j'ai eu des lumbagos quand j'étais plus jeune. Et c'était uniquement dans les périodes de stress. Alors, donc, il y a quand même une dimension psychologique.
Beaucoup d'hommes avec lesquels, que je connais depuis très longtemps et avec lesquels j'ai vieilli, sont fait opérer du dos, par exemple. Et j'ai toujours cette impression qu'ils portent le monde sur les épaules et que
c'est une belle image.
C'est une maladie somatique. Et j'ai reçu ici quelqu'un qui nie l'existence de la maladie d'Alzheimer en tant que terme générique. Et donc les médicaments ne sont plus remboursés, hein, c'était, leur jeu était financier, mais l'effet placebo était un bon argument pour les maintenir. C'est une idée du soin, quoi. C'est quand même une idée du soin. Il y a un côté poudre de perlimpinpin qui marche quand même, mais évidemment qu'on sait très bien que les antibiotiques ont sauvé beaucoup de vies, etc. On n'est pas
bien sûr.
Et donc tu as sorti un nouveau livre. Cette semaine.
Oui, enfin, très récemment là.
Le manuel du guérir.
Alors guérir, G-A-I, plus loin, rire.
Avec une illustratrice qui s'appelle
Sylvie Delcroix et qui est très talentueuse.
Là. J'ai plus de micro. Oui, donc tu as sorti un livre. Et donc, qui est drôle, quoi, qui est... bon, il faut que je trouve une phrase qui me cherche.
Sur la quatrième de couve.
La quatrième de couve.
En fait, c'est un recueil de blagues sur le monde médical. Voilà, de petites phrases d'humour. Voilà, le manuel du gai rire, donc illustré par Sylvie Delcroix et aux éditions Grard.
Donc, par exemple, il y a... Quand un dermato hésite face à un pénis infecté, est-ce au chirurgien de trancher? Pour moi, ça me fait beaucoup rire. Donc, le pays des blouses blanches est truffé d'humour noir. Philippe Gourdin frappe fort et vise juste en nous proposant le manuel du guérir. Un remède efficace contre la morosité.
Moi, j'ai toujours aimé les petites blagues, les petits jeux de mots. Et finalement, je les ai notés dans un carnet depuis quelques années. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal qui traitaient du domaine médical ou qui pouvaient être détournés pour être dans le domaine médical. Voilà.
Bon, c'est une espèce de plaisir à jouer avec la langue. Si vous êtes gynécologue, ne roulez pas trop vite, ovulant.
Ovulant.
Addict au cannabis, je voudrais prendre mes vacances en juin. C'est J-O-N-T. Bon, ben écoute, Philippe, merci. Je te laisse le mot de la fin. Donc, je rappelle le titre de ton livre. Philippe Gourdin, je suis né trois fois.
C'est Fauve.
Et ces deux livres et l'autre, Le Manuel du Guérir, tous les deux ont été publiés cette année. Et nous allons écouter un petit morceau de musique.
Et peut-être qu'on peut préciser que j'ai un site
www.philippegourdin.net.
Voilà.
Alors, le site de Philippe, www.philippegourdin.net.
ça me prend les jours fériés. Quand Gisèle clappe dehors, j'aurais pas dû ouvrir à la roquine carmélite. La mère sup m'a vu venir, Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués, puis y'a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. Le feuilleton à la place. Oh, oh, vertige de l'amour. Tu chopes des souhaits à Saigon. Je m'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je me découpe. Reste sourd au cri du marchand de glace. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh, vertige de l'amour. Mon légionnaire attend qu'on chante.
Tout va bien?
Oui.
Nous sommes toujours sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et nous recevons maintenant Pacôme Thielman pour Sycomore, Sycamore qui vient de paraître au PUV dans la collection Perspective Critique. Et voilà. Et c'est Loïc Konanski qui va nous interviewer. Pacôme Thielman, à toi Loïc.
Ouais.
Bonjour. Donc Pacôme, tu viens de sortir un livre qui s'appelle Sycomore, Sycamore.
Oui.
Et avec deux vedettes en principale, trois vedettes principales, Shakespeare, Rivette et David Lynch.
Yep.
En guest star, Raymond Roussel et Nerval.
Oui.
Et j'ai oublié peut-être une femme qui
très important. Premier rôle féminin du livre, Emilia Lanier.
Voilà.
Qui est pour sa première apparition à l'écran dans un livre français.
Ok. Alors, le Sycamore, c'est une mythologie où ça démarre comme ça. Cette terre est la création du démiurge. Ce monde appartient au diable. Tu peux expliquer ça?
Ah bah, si je pouvais l'expliquer, je pourrais commencer à défaire l'ensemble d'horreurs qu'ont tricoté ces deux pépères pour nous, quoi. Non, c'est plus un constat. Ce constat-là, où on le fait de façon, mentale, psychique, c'est-à-dire qu'on voit dans quelle espèce d'imbroglio on se retrouve à chaque fois. Grosso modo, le démiurge, c'est l'ordre. Et le diable, c'est, on va dire, c'est la perversion à l'intérieur de l'ordre. C'est-à-dire que l'ordre a ça de fantastique, que ça soit, on va dire, celui que tu t'imposes à toi-même ou celui que le monde t'impose, que dès que tu essayes d'en sortir, il trouve des biais pour te ramener, te faire retomber dedans. Et c'est ça le jeu du démiurge et du diable. C'est le jeu pervers qui fait qu'on n'arrive pas à sortir du labyrinthe.
Donc c'est ce que tu définis comme ça, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, de la création, c'est l'âme maltraitée, désorientée par les archontes, avant même son arrivée sur Terre, cherche du réconfort auprès de ses pires persécuteurs. D'après Shakespeare, cette âme initialement maltraitée cherchera en outre à assouvir sa vengeance chez les hommes qui la respectent et qui l'aiment. Et ça, c'est le sycamore.
Ça, c'est le sycamore. Pourquoi ? Parce que la malédiction suprême là-dedans, ou en tout cas le point qui rend vraiment malheureux les personnes qui essayent d'aimer malgré tout sur cette terre, c'est qu'en fait, à partir du moment où les conditions sont réunies pour que l'amour puisse avoir lieu, en fait, les démons du passé ressurgissent. Mais ça, on l'a souvent vécu dans des histoires d'amour qui ont mal tourné. C'est-à-dire que c'est finalement là où les conditions sont le plus propices pour que ça réussisse. Là où on se comprend le mieux, là où on s'entend le plus, là où finalement les enjeux sont au plus grand, c'est là où viennent s'insérer les démons du passé. Donc, pourquoi ? Parce que l'âme a été habituée à reconnaître dans les traits de la persécution les traits de l'amour. Et l'âme a été habituée, mais presque avant sa naissance. C'est ça l'idée des gnostiques, ce qu'on a appelé les gnostiques.
Et c'est ce que tu appelles la métempsychose des affects.
Oui, tout à fait. Mais c'est tu fort, as bien lu. Je ne remettrai jamais en question en plus le fait que tu as bien lu. Oui, tout à fait. C'est la métempsychose des affects. C'est-à-dire qu'il y a un truc. C'est pas seulement l'âme. Vous voyez, dans l'idée un peu de la métempsychose, l'idée de Platon ou l'idée qu'on a chez les Grecs. On vient sur Terre, on a oublié, et on se ressouvient de sa connaissance, mais en réalité on vient avec l'amnésie de sa véritable nature, oui, mais on vient aussi avec une sorte de connaissance a priori inversée de ce qui peut nous faire du bien ou de ce qui peut nous faire du mal. C'est-à-dire que
on a des malus dès le départ.
Oui, on a des malus de départ. Ça c'est le petit ajout. D'accord. Que les 100 rois font à la doctrine de la métempsychose. C'est-à-dire que non seulement on revient, on est revidé, on recommence, mais on recommence quand même avec toujours un moins au départ. Et avec une espèce de truc, un truc qui fait qu'on est déboîté, l'âme déboîtée de départ.
Et donc c'est ce que tu dis, l'amour conservera alors sa fonction qui est d'unifier l'être humain à la divinité à travers la passion pour un autre être humain, mais mystérieusement, il devra pour cela passer par un nouveau labyrinthe de l'âme. En fait, c'est un trajet initiatique.
Ouais.
Par rapport à cet affect polluant.
Exactement. Exactement.
D'accord. Donc c'est notre croix, quoi.
Notre croix. C'est pas une croix qu'on a choisie. On confondra jamais. Enfin, moi, je confonds pas du tout là-dedans l'innocent et le coupable, quoi. Ou je sais pas quoi. Ou la bourreau et la victime. Ou le chat et la souris. Le fait que l'âme soit désorientée initialement fait que, oui, d'une certaine façon, il y a une souffrance qui nous est donnée au départ, qui n'est pas une souffrance. Je n'estime pas qu'elle soit nécessaire, je n'estime pas qu'elle soit légitime, je n'estime pas qu'elle soit positive, etc. Au contraire, la recherche, c'est l'abolition de cette souffrance, c'est l'abolition de ce mal, c'est l'abolition de cette douleur. Ou alors, c'est l'utilisation de cette souffrance, l'utilisation de ce mal, l'utilisation de cette douleur pour en faire quelque chose de grand.
L'alchimie.
Ça peut être aussi l'alchimie, exactement. C'est la transformation de la merde en or. Ça, oui.
D'accord. Et donc, c'est ce que tu appelles une super expression, le samsara pourri.
Oui, j'utilise des termes orientaux, mais en les tordant un peu. Oui, j'imagine le swami qui entend ça et qui me regarde avec des gros yeux. Mais bon.
Et donc, c'est
après avoir vraiment bien merdé sur le christianisme dans la Victoire des 100 rois, j'espère bien merder avec le bouddhisme dans celui-là aussi.
C'est ce samsara pourri qui traverse toutes les pièces de Shakespeare.
En fait. Le truc, c'est que à mesure qu'on lit les pièces de Shakespeare, à la suite, Ça, c'est une expérience particulière. Ou qu'on les voit à la suite, qu'on les voit comme un tout. On les voit comme des incarnations successives des mêmes personnages. C'est structurel, et c'est structurel finalement à n'importe quel grand dramaturge, puisqu'il a une troupe, puisque cette troupe va rejouer tous les 6 mois ou les 1 an une nouvelle pièce. Et donc, de toute façon, que l'auteur le veuille ou non, les personnages qui suivent vont être les réincarnations des personnages précédents. C'est pareil aussi dans une grande cinématographie d'un cinéaste avec une troupe. Fassbinder, mais Rivette ou Lynch, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est structurel. C'est pas forcément. Shakespeare n'a pas décidé forcément de faire ça. D'accord. Sauf que, c'est vrai qu'un truc mystérieux, c'est qu'il est obsédé par la doctrine de la métempsychose, Shakespeare. Ça, c'est quelque chose dont parlent très peu les shakespeareologues. C'est pas pour leur porter la pierre.
Les shakespeareologues, c'est une profession.
Non, c'est une qualité.
C'est une qualité
de l'âme, shakespeareologue.
Je cite Shakespeare, là.
Vas-y.
Je suis au-delà de la guérison. Maintenant, ma raison est au-delà de la cure et sans repos. Fou fanatique pour toujours. Mes pensées et mon discours, comme des fous dans le chaos, devant la vérité vainement exprimée, parce que j'ai prêté serment à ta grâce et pensé ta lumière. Toi qui es noir comme l'enfer, sombre comme la nuit. Et là, on est dans l'amour malade.
Ça, c'est l'amour que porte le poète des sonnets à la Dark Lady, absolument. Cette Dark Lady qui est un des personnages les plus mystérieux de l'univers shakespearien, sur lequel énormément d'hypothèses ont été énoncées dans énormément de livres. Et en fait, en faisant des recherches sur ce personnage qui me passionnait particulièrement depuis des années, je me posais la question qui est la Dark Lady des sonnets de Shakespeare. Mais comme se posent beaucoup de gens qui aiment Shakespeare et qui aiment les sonnets et qui aiment les femmes sombres aussi. Et je suis tombé sur l'hypothèse d'un shakespeareologue qui s'appelle Rose, A.L. Rose, et qui a proposé comme identité de la Dark Lady une poétesse. Alors là, je me suis dit, ça me parle, ça m'intéresse. Emilia Lagné. Emilia Bassano.
Cette Dark Lady, c'est un archétype, c'est quoi dans l'humanité?
Alors, dans les sonnets de Shakespeare, on me dit la Dark Lady parce que c'est un personnage des sonnets, et en fait, c'est une femme dont on ne sait pas le nom.
Mais c'est un type de femme comme.
Mais c'est un type
que
de
Freud
femme
aurait
aussi.
Pu utiliser pour. Pour diagnostiquer.
He should be so lucky. Voilà, on tombe pas tous les jours sur une Dark Lady. C'est quand même. L'idée, c'est que c'est une femme qui est très destructrice, mais pas une mauvaise femme. C'est une femme qui est présentée dès le début comme, au contraire, passionnément aimante, avec un très grand cœur, une très grande intelligence, une intelligence supérieure, des qualités artistiques décuplées. Elle est pianiste, elle est poétesse. Grosso modo, la situation dans laquelle la société de l'époque l'a mise, la minoration, je sais pas comment dire ça, enfin grosso modo la mise en minorité, la minoration dans laquelle elle se situe, quand elle rencontre le personnage de Shakespeare. Je dis le personnage Shakespeare parce que tout est mystérieux dans cette histoire. Enfin bon, Shakespeare, oui. Shakespeare, l'auteur des sonnets, quoi. La relation, de par le fait qu'elle est immédiatement posée sous les termes de l'égalité, en fait, va faire ressurgir les démons du passé. Va faire ressurgir les démons du passé, c'est-à-dire tous ceux qui, grosso modo, ont fait une vie d'enfer à la Dark Lady, vont devoir payer. Et donc le poète paye, voilà, pour les autres.
Il y a une facture qui est à payer.
C'est ça.
Et
c'est ça qui est compliqué dans cette histoire.
On continue, on n'approfondit pas parce qu'il faut lire le livre quand même, hein. Chaque point.
Je vais pas dire le contraire, Laurent va m'engueuler.
Non, il y a d'autres points à explorer, un petit peu à annoncer. Donc en fait, après il y a quand même une porte de sortie de nos jours par rapport à Shakespeare, qui est la continuation de Shakespeare, un peu du rôle de Shakespeare. C'est, je te cite encore, oui, la Renaissance hermétique est le moment. Donc c'est l'époque de Shakespeare, un peu.
Oui,
ça,
oui,
hein,
tout à fait.
Est le moment où la découverte d'une unité principielle des différentes expressions de la divinité entraîne. Je coupe. L'intuition que la divinité s'exprimera désormais à travers les œuvres d'art populaire. Et là, tout ton boulot est là. C'est de débusquer, la divinité dans n'importe quel tube pour midi.
Oui, non, mais j'abats mes cartes, hein, dans ce livre comme dans les autres, hein, donc on va pas vous surprendre. Quand j'ai trouvé la citation de Borges formidable sur Shakespeare, je me suis un plaisir de la mettre. Je l'aurais inventée sinon, mais je l'ai pas inventée. Je fais pas comme Borges qui invente des fausses citations. Celle-là, c'est vraiment, vous la trouverez, c'est dans le livre des préfaces, et c'est quand il présente une des pièces de Shakespeare, je crois que c'est Macbeth ou Hamlet, qui fait une préface à cette pièce, et dedans où il dit, mais Shakespeare, la fonction de Shakespeare dans son époque était comparable à celle d'aujourd'hui de quelqu'un qui crée des dramatiques pour la télévision. Donc c'est, il dit, faut pas croire que Shakespeare arrive dans son siècle comme un auteur académique, quoi. Voilà, c'est vraiment le théâtre de Shakespeare. Il se joue dans des lieux où il peut y avoir des meurtres. Enfin, il y en a eu des paquets des meurtres pendant des représentations des pièces de Shakespeare, des accouchements. Évidemment, ça baisse dans tous les coins. On bouffe, on crie, il y a des musiciens. C'est le théâtre de Shakespeare est un théâtre punk, quoi.
D'accord.
Enfin, c'est pas ce théâtre d'ailleurs, c'est le théâtre élisabéthain. C'est au sein du théâtre élisabéthain qu'il va créer son théâtre. Mais son théâtre est au sein du théâtre élisabéthain une singularité par rapport au théâtre élisabéthain qui est en fait la culture populaire de son époque.
Et donc là, je vais te faire écouter un truc. Tu vas me dire que si tu arrives à percevoir dans cette culture, dans ce genre de culture populaire, la divinité.
Dis-moi. Je mets mon casque. Hein.
Non.
Bah oui.
T'arrives à percevoir la divinité.
Non mais ça me fait trembler.
D'accord.
Ça me fait frissonner. La production Spector là, voilà. Le truc ce truc là qui tremble.
Voilà.
Bien sûr, évidemment, la divinité elle s'exprime comme ça.
Des tragédies pour adolescents, il appelait ça, hein, oui. C'est ça je crois.
Ça. Donc ça c'est. Mais il a tout compris. À part non, il a pas tout compris, sinon il aurait pas tué cette pauvre femme.
Mais attends, c'est justement, lui, évidemment, son destin, parce que ça, c'est quand même avant... Il n'y a pas le sycamore là-dedans, il y a une promesse, on dirait, c'est plutôt oui. Un appât pour tomber dans le sycamore. Spector ne serait-il pas du côté du démiurge, en fait?
Ah. Je vais pas me prononcer, le mec est en prison, quand même, on va pas l'accabler davantage.
Ah oui, ça sera à charge.
Ça sera à charge.
D'accord. Ok.
Mais là où on peut quand même aller dans ton sens, c'est que, par exemple, c'était un producteur de génie, mais un producteur vraiment effrayant, quoi. Et pour Lennon, par exemple, il a fait retomber dans l'alcool, alors que Lennon était bien. Ça, c'est un truc.
Oui, mais c'était au prix d'un chef-d'œuvre.
Walls and Bridges.
Oui.
Mais est-ce qu'il aurait pu le terminer avec Spector? Parce qu'il a quand même dû le faire sans, quoi.
Et donc, on va rester là-dedans. Tu dis, à un moment, avec les six comédies amoureuse, Shakespeare invente 340 ans plus tôt la screwball comédie hollywoodienne des années 30. Et tu racontes après, à partir des années 2000, comédiens et non-comédiens se retrouveront dans la maison de Whedon pour travailler avec Whedon les pièces de Shakespeare, leurs personnages, leur sens, leurs possibilités, et tout cela nourrira en retour les personnages, le sens et les possibilités des séries Buffy, Angel et Dollhouse.
Oui.
Voilà, donc Shakespeare complètement.
Alors Shakespeare, ça c'est pas moi qui l'invente, mais ça, à mon avis c'est un élément important par rapport à notre époque, c'est que c'est vraiment la bible absolue des grandes séries télévisées. Mais quand je dis bible absolue, c'est encore plus comment dire, c'est une technique, c'est quotidien, quoi. C'est-à-dire que mais ça c'est un truc qui a été inventé par Joss Whedon, par le créateur de Buffy. Alors souvent c'est presque un truc pour mes amis même se moquent de moi. Pas comme tu vas nous reparler de Buffy encore une fois. Ouais, désolé, mais
c'est de ma faute.
C'est un truc important. Voilà, c'est la faute de Chloric cette fois-ci.
D'accord.
Non, mais c'est un truc important par rapport à la culture série télévisée, si on peut dire.
D'accord.
Buffy contre les vampires, c'est une date clé, c'est un truc vraiment central parce que c'est ce showrunner extraordinaire Joss Whedon et lié à ses acteurs aussi, lié aussi à la personnalité incroyable des acteurs, ces acteurs qui fait qu'ils se sont dit bon, comment on travaille finalement nos séries machin, on va travailler à partir des pièces de Shakespeare, on va travailler Shakespeare. Et donc entre chaque saison ou je sais pas quoi, ils ont fait des stages chez lui où ils jouaient les pièces et en fait ils se les jouaient pour eux-mêmes, ils remettaient en scène les pièces et ils ont fait ça jusqu'à finalement en faire un film pour montrer ce que c'était quoi. C'est vrai que c'est bouleversant parce qu'on voit il y a une intimité profonde entre le théâtre de Shakespeare et ce qu'il peut y avoir de plus beau, en tout cas dans la fiction populaire contemporaine.
Et donc, est-ce qu'on peut considérer ça comme des réunions de résistance contre le sycamore ou des tentatives de prophylaxie? Non? C'est les réunions qu'il faisait là. Non, c'est drôle, c'est trop drôle.
Non, c'est pas du tout. C'est que j'essaye d'écouter en même temps la musique que tu proposes. Peut-être qu'il faut pas que je, à ce
moment-là. Oui, pardon.
I never thought I'd... c'est Chris Isaac là, enfin c'est rechanté par quelqu'un d'autre, c'est voilà. Ça, c'est Wicked Game. Ouais. Donc si tu veux faire le blind test dans l'interview, c'est compliqué quoi.
Ah merde, désolé.
Donc tu disais réunion prophylactique contre le sycamore.
Oui.
Bah le truc c'est que le sycamore est aussi c'est un ingrédient clé de, en tout cas de ce type de fiction, hein, en particulier Buffy, Angel, Dollhouse, qui sont à côté de ça des séries très très intéressantes sur plein d'autres points, mais que j'ai développé dans d'autres textes.
D'accord.
Quoi, sur les questions politiques et que, parce que c'est aussi des choses très très proches de la des visions de Dick, avec quand même toujours avec derrière des démiurges mauvais, derrière toujours le mal vient toujours de l'ordre, en fait c'est toujours les représentants de l'ordre qui créent les problèmes qu'ensuite ils viennent proposer de solutionner, on dit solutionner,
oui,
c'est un peu moche, hein, c'est un peu politicien. Groupe d'intervention antidémiurgique.
Et donc, toi, pour le sycamore, parce qu'en fait, t'as une tendance coaching dans ce livre.
Non, mais c'est vrai.
Et donc,
je suis d'accord. Coach.
Quand on veut.
Je
te cite là, toi, c'est vraiment ton conseil de coach.
Oh, vas-y.
Quand on en veut à quelqu'un, c'est toujours qu'on le fait entrer dans notre tête. Et on ne devrait pas. On devrait le laisser là où il est. Une fois sorti de nous-mêmes et observé comme un phénomène indépendant, nous ne pouvons plus lui en vouloir. Pas plus que nous pouvons en vouloir au jaguar de nous dévorer ou au ciel de pleuvoir. Pour toi donc, souffrir d'amour est-il un phénomène aussi impersonnel que se choper une bonne grippe ?
Complètement. Complètement d'accord.
Tu coaches à mort.
Voilà. Non, là, c'est vrai, c'est une partie coaching, je suis d'accord. En fait, ce serait coaching, mais le coaching version profiler, en gros.
Voilà.
C'est-à-dire, parce que c'est à partir des exemples des profilers que je donne ça.
Voilà, sur exactement. Les profilers, je te cite. Alors, laisse-moi te citer, j'ai travaillé.
Je suis désolé.
Il faut entrer dans la logique de l'autre, vivre comme le profiler vit les crimes d'un serial killer.
C'est ça. Ça m'intéresse énormément
comme
idée.
Mais ça fait peur, ça, pour ton partenaire, un peu, non?
Je suis coach, mais je dis pas pour autant que ce que je vais proposer, ça va être de tout repos, hein. Disons que c'est une autre manière. À mon avis, on est plus loin du malheur. Ça veut pas dire qu'on est loin de la souffrance, hein. Mais on est loin du malheur.
Bah,
on peut souffrir, mais dans ces cas-là, comment dire, c'est une souffrance. Mais c'est une souffrance impersonnelle, ouais. C'est une souffrance comme on souffre d'un kyste, quoi.
Ouais.
Tu souffres de bien l'amour sûr. Comme tu souffres d'un kyste. Donc tu dis bon bah combien de temps ça prend, qu'est-ce que c'est que cette histoire, de nettoyer. Tu te désappropries. C'est violent, hein. La partie coach elle est violente, je suis d'accord. Mais il y a pas que du coach, hein. Y a aussi une partie... Mais quoi, ça m'intéresse. Okay, je fais du coaching.
Enfin, il y a du yoga quand même. Il y a du yoga.
Il y a du yoga.
Le yoga shakespearien, qu'est-ce que c'est?
Yoga shakespearien. Le yoga shakespearien, dedans, tu me demandes de définir très vite des choses qui, à un moment, prennent beaucoup de temps, c'est violent,
c'est violent.
C'est de faire revenir, finalement, une histoire sous plein de formes différentes. En fait, moi, ce que je recommande aussi, ça c'est un truc vraiment à faire, ça c'est un truc de coach, hein, mais vous prenez des pièces de théâtre de Shakespeare, vous les lisez et vous mettez à la place des personnages principaux, vous, la personne que vous aimez, les gens autour, etc. Vous faites votre théâtre mental de votre histoire. Maintenant, vous venez de tomber amoureux, il y a des problèmes dans tous les sens, etc. C'est un truc qui fonctionne pas. Vous prenez peine d'amour perdue, ou vous prenez comme il vous plaira, beaucoup de bruit pour rien, et vous comblez, vous faites le casting, et vous les lisez, et vous en lisez plusieurs à la suite. Là, en fait, vous faites parler d'une certaine façon, vous faites parler toutes ces personnes qui, pour vous, dans votre vie, à un moment, restent opaques.
C'est ton ordonnance contre la dépression, c'est ça?
En tout cas, ça, oui, vous avez autre chose à faire que de la dépression à ce moment-là, c'est sûr.
Mais et donc, en fait, toi, tu parles. Oui. On en vient à Rivette, un autre. L'obsession du cinéma de Rivette pour le théâtre tient à la fois d'une compréhension intime du yoga shakespearien et de l'intuition de la solution pour sortir des ensorcellements que celui-ci. N'avait pas intégralement dissipé. Shakespeare, donc, il a fait de la prophylaxie, mais pas assez. Donc, Rivette arrive.
Longtemps après, hein.
Longtemps
non, mais
après,
pour moi, c'est des œuvres qui sont relativement complémentaires, ouais.
D'accord. Et donc, on va sauter à Lynch tout de suite. J'ai l'impression que chez toi, Lynch, t'es au niveau de Shakespeare, non?
Oui, mais en fait, si tu veux, je hiérarchise pas.
D'accord.
C'est des choses qui me touchent plus que d'autres. Alors, il se trouve qu'il y en a que j'ai déjà traité avant, et il y en a que je traite pour la première fois. Shakespeare, j'en avais jamais parlé avant. Enfin, un tout petit peu, mais quoi, ce livre-là, celui où j'aborde vraiment Shakespeare. Rivette, j'en avais un peu parlé, mais vraiment pas suffisamment à mon goût. Lynch, j'en avais beaucoup parlé, mais visiblement pas encore suffisamment. Mais
voilà. C'est pour ça que je dis ça.
Mais hein. oui, bien sûr, c'est, tu peux te dire, mais c'est aussi le jeu du livre. C'est comment? Le livre dicte son propre casting aussi. Et comme se basait vachement sur la question de l'amour. Dans la question de l'amour, il y a la question de la découverte de quelqu'un de nouveau. Et à l'intérieur d'une nouvelle relation, la façon dont les fantômes du passé ressurgissent. Ça, c'est le truc de l'histoire de l'amour. En tout cas, dans le sicamour, c'est comme ça que je le percevais. Donc on a la rencontre avec quelqu'un de nouveau. Et à l'intérieur de cette relation, tous les fantômes du passé qui ressurgissent. Bon, le livre épouse cette forme. C'est-à-dire qu'il y a la rencontre avec un corpus nouveau, qui est le corpus de Shakespeare, entièrement nouveau. À ce moment-là, j'essaye de convoquer en plus des auteurs que j'avais pas convoqués avant, comme tu dis, des guest stars, Raymond Roussel, mais tu parlais d'Oscar Wilde, oui. C'est des auteurs que j'avais pas du tout traités, et ça me semblait très intéressant pour Shakespeare, où il y a des figures beaucoup plus évidentes qui viennent à l'esprit, que ce soit Wilde et Roussel qui soient convoqués pour venir, compliquer, l'affaire. Mais pour autant, les fantômes du passé ressurgissent, et quand les fantômes du passé ressurgissent, le gros fantôme du passé, le fantôme le plus énorme, celui qui plane dans presque tous mes livres, c'est Lynch. Lynch.
Le point nodal du mal sur la planète, c'est Hollywood.
Dans Mulholland Drive, c'est extrêmement clair que c'est ça que ça raconte, bien sûr. Oui. Mulholland Drive et Inland Empire. Mais Inland Empire a un peu... si on doit parler de prophylaxie, la prophylaxie, c'est Inland Empire. Prophylaxie ultime, c'est Inland Empire. C'est le film de Lynch qui semblait le plus obscur pour beaucoup de gens, jusqu'à que la saison 3 de Twin Peaks arrive, et que finalement, Inland Empire, ça soit pas si obscur par rapport à la saison 3 de Twin Peaks. Mais c'était très honnêtement... Et j'ai lu énormément d'analyses et de textes sur Inland Empire, quoi qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Enfin, j'ai lu tout ce que j'ai pu. Et tout le monde trouve ça obscur, et tout le monde trouve ça bizarre. Mais simplement parce qu'il y a une... Il faut comprendre au début du film l'intuition fondamentale qui l'habite, et après tout devient très très clair. Le cinéma de Lynch est beaucoup moins obscur qu'il n'en a l'air, et beaucoup moins hermétique qu'il n'en a l'air, à partir du moment où
d'Hollywood. Tu vois, c'est ça qui m'intéresse plus.
Hollywood comme centre du mal. Parce que comme créatrice des fictions dans lesquelles on va perdre la vie, en fait. Oui. Créatrice des fictions, et des fictions amoureuses qui vont faire le plus de mal. Créatrice des schèmes amoureux, des pseudo-récits qui vont nous obséder, alors que la misère s'accroît. Alors que le désert s'accroît et la misère s'accroît.
D'accord. La clochardisation de l'humanité, tu appelles ça. Homeless.
Absolument. Regarde, le truc énorme dans Mulholland Drive, le truc énorme, c'est que le truc capital du film, c'est le clochard. La question du film, c'est le clochard. On voit le clochard à la fin, on voit vers le début, espèce de la figure du clochard, et le truc qui fait peur. C'est présenté comme le truc qui fait très 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 peur. Le repoussoir absolu, c'est le clochard. Or, l'histoire du film est l'histoire d'une jeune actrice qui va débuter, qui pense que sa vie va ressembler à un film hollywoodien, et qui termine dans un état de clochardisation, et qui se suicide. Et ce parcours est reproduit dans Inland Empire, sauf que dans Inland Empire, il est reproduit avec la conscience du truc, avec le côté « oui, mais je suis une mission derrière ça ».
Mais en fait, donc, Hollywood est vraiment toxique, et là, tu vas encore plus loin, tu dis « Lynch nous propose, enfin, cela induit la destruction obligatoire de l'Occident ».
Oui.
Wow, quand même.
Hollywood étant dans l'absolu de l'Occident, en fait. L'extrême Occident, c'est la pointe de l'Occident. Hollywood, Los Angeles, ouais. Déjà. Enfin, si on regarde une...
La quintessence.
Du point de vue géographique. Ça c'est quelque chose que j'avais lu naguère dans les textes de Raymond Abellio, La structure absolue, Assomption de l'Europe et tout ça, où il mettait en polarité le Tibet et Los Angeles, où il disait la pointe de l'Orient, la pointe de l'Occident. D'accord. Le Tibet comme pointe de l'Orient, et qui aussi, qui d'une certaine façon échappe à son propre destin, et Los Angeles, Hollywood, la pointe de l'Occident, qui également échappe à son destin. Et qui, en fait, arrivé à ce point-là, montre les germes de l'autodestruction de sa propre puissance.
Ce qui fait qu'en fait, ce qui peut se résumer à ça, c'est qu'il y a une facture impayée et qui doit être payée, et qui va être payé.
Absolument, c'est la conclusion de ça sur Hollywood, en tout cas, sur l'Occident, bien sûr. En fait, derrière, il y a vraiment la facture de l'Occident, bien sûr, il y a la facture de l'Occident. Pas, en fait, le truc de là où l'amour devient vraiment une arme de destruction terrible, c'est envers sa propre population. C'est-à-dire que les films d'amour, intoxiquent sa propre population, qui fait que même les, même ceux qui sont exempts de la clochardisation de l'humanité, vont être réduits à souffrir perpétuellement de, du mal d'amour qui a été introduit par leur propre mythologie. Donc, c'est ça, leur, c'est ça la facture payée qui doit être payée. C'est-à-dire qu'il y a la facture de l'Occident vis-à-vis du reste du monde, ça, la colonisation, pollution de la planète, etc., etc. Enfin, tu peux y aller. Ouais. L'Occident, je crois, a fait vraiment tellement de mal que ça semble incroyable. Si jamais il y avait un dieu juste, normalement,
et donc,
on ne devrait plus être là. Quoi. Même si simplement la planète pouvait un tout petit peu réagir, on ne devrait plus être là. Enfin, grosso modo,
on va conclure avec ce
mais
dernier...
Bref,
Oh, messieurs,
on va conclure quand même avec le dernier conseil, le conseil. Tout amour que tu vis dans l'attente de quelque chose est voué à échouer. Il faut que tu échoues jusqu'à ce que tu cesses d'attendre quoi que ce soit. Voilà. Merci, Paco. Ah,
merci à vous deux. Vous
coaching.
C'était formidable. Et Mathieu, on va peut-être écouter Love is Insane. Comme générique final, mais je dois annoncer que nous étions sur Aligre FM 93.1 avec Paco Ntielman, qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Sycomore, Sycamore » chez Puf, dans la collection Perspective Critique, et avec Philippe Gourdin pour son « Je suis né trois fois » aux éditions Fauve.
Sous vos applaudissements.
Voilà.